Vous écoutez, on lit pour vous.
Des loyers gratuits pour relancer le centre-ville. Un texte de Joe Goose du New York Times, paru le 7 septembre 2024 dans la presse. Le centre-ville de San Francisco connaît un regain d'énergie provenant d'une source qui a fait défaut pendant des années, les vitrines occupées. L'un de ces magasins est Paper Sun Coffee, un torréfacteur au parfum populaire parmi les communautés latino-américaines et asiatiques qui opère dans le quartier South of Market depuis le mois de juin 2024. Avant cela, l'espace était resté vide pendant près de 3 ans. Les gens qui travaillent ou vivent dans le quartier s'arrêtent et se disent « Wow, il y a quelque chose ici », explique Alexander Pong, propriétaire de Paper Sun. Ils sont enthousiastes. Paper Sun fait partie d'une initiative visant à aider San Francisco à renouer avec l'époque où la ville n'était pas encore un exemple dévastateur de ce qui pouvait mal tourner dans les villes américaines pendant la pandémie. L'entreprise a été choisie pour participer à Vacant to Vibrant, un programme lancé en 2023 par le maire de la ville, London Breed, pour remplir les espaces vides du centre-ville, qui se compose principalement de plusieurs pâtés de maison à cheval sur Market Street, dans les quartiers du Financial District et de South of Market. Le centre-ville de San Francisco présente la plus forte concentration de vitrines vacantes de la ville. Les loyers des commerces ont toujours été très élevés dans le Financial District, explique Santino DeRose, directeur de Maven Commercial, société de courtage immobilier ayant des bureaux à San Francisco et à Chicago. Ces entreprises ont désormais la possibilité de se lancer et de déterminer si leurs concepts sont viables dans ces lieux. Dans le cadre de ce programme, la ville et les chefs d'entreprise offrent un loyer gratuit pour une durée maximale de 6 mois, ainsi que d'autres financements pour les dépenses de l'entreprise et des incitations telles que l'assistance technique et l'aide à l'obtention d'un permis d'exploitation aux entrepreneurs qui souhaitent s'installer dans des espaces vides, dont beaucoup se trouvent au rez-de-chaussée d'immeubles de bureaux. L'objectif est d'inciter ces entreprises à payer leur loyer et à signer des baux plus longs à l'issue de la période de gratuité et de faire en sorte que leur présence régénère le trafic piétonnier dans le quartier. Quelques 850 entrepreneurs ont posé leur candidature et 17 entreprises ont été choisies pour occuper 9 espaces commerciaux l'automne dernier. 7 d'entre elles ont prolongé leur bail et paient désormais un loyer. 11 entreprises ont été sélectionnées en mai pour la deuxième cohorte du programme qui ont commencé à exploiter leurs vitrines cet été. Une occasion rare. Pour Hillary Passman, propriétaire de The Devil's Teeth Baking Company, un café petit-déjeuner et déjeuner connu pour ses sandwichs au bacon, aux œufs et au fromage préparés avec des biscuits au babeurre, Vacant to Vibrant, représentait une occasion rare. Ouvrir un magasin au One Embarcadero Center, un complexe de bureaux tentaculaires de 4 bâtiments dans le Financial District qui comprend des boutiques, des restaurants et des lieux de divertissement. Il s'agit du 3e magasin Devil's Teeth de la ville et Mme Passman a signé un bail de 5 ans avec le propriétaire de l'immeuble, BXP, un grand propriétaire d'immeubles de bureaux anciennement connu sous le nom de Boston Properties. J'ai toujours voulu m'installer dans le centre-ville. À l'époque pré-pandémique, c'était un endroit animé, vibrant et énergique, explique Mme Passman, qui a travaillé dans le centre-ville en tant qu'avocate avant d'ouvrir Devil's Teeth dans le quartier Outer Sunset de la ville en 2011. Mais à l'époque, les grands propriétaires ne s'intéressaient pas à une toute petite boulangerie. Ces mêmes propriétaires s'y intéressent aujourd'hui. Les gens d'affaires de San Francisco avaient espéré qu'une vague d'investissement dans de jeunes pousses spécialisées dans l'intelligence artificielle contribuerait à revitaliser le marché des bureaux, mais les devantures de magasins au rez-de-chaussée sont restées vides. Le taux d'inoccupation des bureaux de la ville a atteint 33,7%, un record au deuxième trimestre de cette année selon JLL, une société de courtage en immobilier commercial. Il s'agit de l'un des marchés de bureaux les plus sombres du pays, où le taux d'inoccupation moyen est d'environ 22%. Pour l'instant, cependant, Vacant to Vibrant représente une lueur d'espoir pour San Francisco. Rod Deal, le vice-président directeur de BXP qui supervise les immeubles de la côte ouest, a déclaré que la stratégie des commerces éphémères était bénéfique non seulement pour les propriétaires d'entreprises locales qui peuvent ainsi tester leurs concepts et explorer des occasions de croissance, mais aussi pour les efforts de location de bureaux. En plus de Devil's Teeth, BXP a signé des baux à long terme avec 3 autres diplômés du programme Vacant to Vibrant. Outre la gratuité du loyer, qui est généralement accordé pour 3 mois, avec une possibilité de 3 mois supplémentaires, Vacant to Vibrant fournit jusqu'à 12 000 $ US aux entreprises pour les aider à couvrir leurs frais d'assurance et autres dépenses. Le programme offre également des subventions allant jusqu'à 5 000 $ US aux propriétaires d'immeubles pour couvrir les coûts des améliorations locatives dans les espaces ainsi que d'autres dépenses telles que les services publics. Vous écoutez « Des loyers gratuits pour relancer le centre-ville », un texte de Joe Goose du New York Times, paru le 7 septembre 2024 dans la presse. La plupart des entreprises sélectionnées sont de petits commerces qui ont déjà des clients en ligne et dont les produits et services peuvent attirer les clients hors de chez eux. Pour le premier groupe, les responsables du programme ont sélectionné un nombre égal d'entreprises de restauration, de commerces de détail et d'art, et de vie nocturne et de divertissement. Mais les entreprises de restauration ont mieux réagi aux conditions du marché et le deuxième groupe est donc composé en majorité de ses locataires. À l'avenir, le programme accueillera de nouveaux commerces éphémères de manière ponctuelle. Bien que le programme ait suscité un nouvel enthousiasme pour la reprise économique de la ville, certaines entreprises affirment que la fréquentation n'est pas assez élevée pour signer un bail à long terme. Priti Narayanan, qui a ouvert avec son partenaire Kulfi Creamery un magasin de glace d'inspiration indienne dans South of Market en juin, affirme que le jury n'a pas encore décidé si elle prolongerait son bail après la période de location gratuite. « Il n'y a pas autant de monde qu'avant la pandémie », a déclaré Mme Narayanan, qui travaillait auparavant dans le centre-ville en tant que planificatrice des transports. Elle espère néanmoins que l'ouverture de nouveaux commerces à proximité attirera plus de monde. En plus de remplir les vitrines vides, le programme a la possibilité d'apporter un vent de fraîcheur et une expérience plus locale au centre-ville, croit Laurel Arvanitidis, directrice du développement des entreprises à l'Office of Economic and Workplace Development, bureau du développement économique et du lieu de travail de San Francisco. Son organisation gère le programme avec SF New Deal, une organisation à but non lucratif qui recherche des partenariats publics-privés pour fournir des subventions et d'autres formes d'aide au développement des petites entreprises. Je pense que, lors de la première série de commerces éphémères, les propriétaires espéraient que l'économie allait réapparaître comme par magie et qu'un Starbucks allait s'installer au bout de 3 mois, a déclaré Mme Arvanitidis. Mais ces entreprises créent de l'animation dans les étages supérieurs des bureaux et des immeubles résidentiels d'une manière qui enthousiasme les propriétaires. Un loyer basé sur le chiffre d'affaires. Pour aider les locataires qui ont signé des baux à long terme à réussir, BXP applique dans un premier temps un loyer basé sur le chiffre d'affaires au lieu d'un montant mensuel fixe. c'est le type d'accord que Julian Prince Dash aurait aimé avoir. En 2006, M. Dash a fondé Holy Stitch, une entreprise qui allie éducation et couture pour relancer la fabrication de jeans à San Francisco. Son entreprise faisait partie de la première cohorte Vacant to Vibrant, mais au bout de 6 mois de loyer gratuit, le propriétaire demandait 23 000 $ US par mois. Le loyer a finalement été ramené à environ 15 000 $ US par mois à la fin des négociations, mais sur une base mensuelle, ce qui a créé trop d'incertitudes pour M. Dash. « Je n'ai aucune réserve quant à cette expérience, dit-il. Au bout de 6 mois, on espère que l'entreprise aura réussi et qu'elle pourra s'offrir un bel emplacement au centre-ville. » Mais cette partie du plan n'a pas abouti. Holy Stitch occupe désormais un espace dans Market Street dans le cadre d'un autre programme financé par l'Office of Economic and Workplace Development. En plus du programme Vacant to Vibrant, qui a reçu 1 million de dollars de la ville au départ et qui devrait recevoir un autre 1 million de dollars pour l'exercice financier en cours, qui a commencé le 1er juillet 2024, la ville consacre près de 2 millions de dollars à un programme de commerce éphémère similaire. Ce nouveau programme aiderait les entreprises à occuper de plus grands espaces vides le long de Powell Street, car la criminalité et d'autres pressions sur le commerce de détail ont fait fuir plusieurs enseignes dont Anthropologie, Banana Republic et Crate & Barrel dans le quartier de Union Square. Victor Gonzalez, un entrepreneur qui a fondé GCS Agency, qui organise des expositions pour les artistes, a saisi l'occasion de s'implanter dans le centre-ville malgré les difficultés de la ville. Lorsqu'il a ouvert un local dans le cadre de la première cohorte Vacant to Vibrant dans le Financial District en 2023, il a tout de suite su qu'il voulait y rester le plus longtemps possible. Il a depuis signé un bail de 3 ans. La ville de San Francisco n'est pas étrangère aux périodes de prospérité et de récession, explique-t-il. Si nous sommes en pleine crise, qu'est-ce qui nous attend? C'est le boom. Et je veux être en mesure d'en faire partie. C'était Des loyers gratuits pour relancer le centre-ville, un texte de Joe Goose du New York Times, paru le 7 septembre 2024 dans La Presse.
Le mot en M, une chronique de Julie Vaillancourt, paru le 23 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Je suis toujours étonné de constater qu'en 2024, les menstruations sont encore aussi taboues. Chronique qui tente de décomplexer le mot en M en 1000 mots. Ce moment où vous êtes aux toilettes publiques et que vous devez changer votre protection hygiénique. Les femmes savent de quoi je parle. Toujours sortir la « always » sans bruit pour ne pas que l'on sache que vous êtes dans votre période. Idem quand vient le temps de l'enlever. À 40 ans, on commence à être habitué. Mais à 12 ans, quand vous êtes la première de votre classe à avoir vos règles, c'est gênant. Surtout si les toilettes publiques sont mixtes. Qu'on se le dise, les menstruations, c'est tabou. La plus grande ironie, c'est que sans elles, il n'y a pas de conception possible. Bref, sans menstruation, le plus beau cadeau du monde, selon les dires, les enfants, ne serait pas possible. Pouvez-vous donc m'expliquer pourquoi tout le monde, particulièrement les hétéros, est aussi gêné à la simple mention des menstruations? C'est ce qui vous permet d'avoir vos bébés. C'est comme si les adultes, ceux qui racontent aux enfants que les bébés naissent dans les choux, tentaient de se mentir à eux-mêmes, en se disant que les bébés c'est possible grâce à leur unique amour l'un pour l'autre. J'ai peut-être l'air cynique, mais c'est vrai. T'as beau aimer l'autre de tout ton cœur, si tu es infertile ou pu menstruer, tu n'auras pas de bébé. OK, le sang menstruel, dégueu. Cela dit, ce n'est pas le premier truc dégueu en lien avec nos organes génitaux. Pourtant, c'est un des plus tabous. D'ailleurs, la Croix-Rouge fait des campagnes de dons de sang régulièrement et plusieurs s'y précipitent. C'est noble de donner de son sang, mais infect de le rejeter de l'utérus, même si essentiel au cycle de la vie. D'ailleurs, les femmes sont pognées avec cette condition pour une bonne partie de leur vie, qu'elles le veuillent ou non. Moi, je n'ai jamais voulu d'enfant. Pourquoi je ne peux pas cocher « non » sur le formulaire de menstruation? Vous allez me dire que je devrais être rempli de gratitude, car je peux donner la vie? Peut-être, mais je ne veux pas. Et plusieurs pensent probablement que je suis égoïste ou mauvaise femme, ou sale lesbienne, car je ne veux pas d'enfant, que je crache sur ce don de Dieu, celui de donner la vie. Avoir des enfants est un choix, pas une obligation, et je fais le choix de ne pas en avoir. Point. Cela dit, je n'ai jamais choisi d'être menstruée. Pourtant, je suis prise avec cette condition. Pour moi, ça se résume à quelques jours de saignement et un caractère de merde durant le syndrome prémenstruel. Mais pour certaines femmes, c'est handicapant au point qu'elles se tordent de douleur et qu'elles ne peuvent même pas se lever du lit pour aller travailler. Au Japon, le droit à un congé menstruel est inscrit dans la loi depuis 1947. Imaginez! La Corée du Sud autorise ses employés à prendre un jour de congé menstruel non payé par mois. L'Indonésie a adopté en 2003 une loi prévoyant un ou deux jours de congé payés en début de cycle menstruel. Le congé menstruel à Taïwan donne droit à 3 jours de congé par an, comptabilisés comme congé de maladie. En Zambie, pays d'Afrique australe, une loi accorde aux femmes depuis 2015 un jour de congé supplémentaire par mois, sans préavis ni certificat médical. Ce congé est surnommé « Fête des mères ». Enfin, en 2023, l'Espagne est le premier pays européen à adopter le projet de loi créant le congé menstruel. En France et en Australie, certaines entreprises accordent ce congé, sans pour autant qu'il soit inscrit dans le Code du travail, ce qui est également le cas du Canada. Néanmoins, au Canada, le Code canadien du travail assure l'accès aux produits menstruels au travail en 2023 pour les employeurs sous réglementation fédérale. Cela dit, 1. Qu'advient-il des autres employés à travers le Canada? Et 2. Ça ne règle pas le problème des congés menstruels pour les personnes qui en ont besoin. Ou encore quand, 3. T'arrives à la maison et qu'il faut payer tes serviettes hygiéniques. Si vous voulez mon avis, il y a 2 choses qui devraient être gratuites, partout. Le papier toilette et les serviettes hygiéniques. Concernant les couches pour bébé, avoir un bébé est un choix. Être menstrué? Non. C'est une condition, au même titre que devoir aller se vider la vessie ou autre aux toilettes. Et aux personnes qui trouvent que c'est exagéré, au moment d'écrire ces lignes, la boîte de 36 serviettes Always... Les meilleurs, je suis pas payé pour le dire, régulière avec elle est à 9,99 $. Heureusement, depuis 2015, il était temps, les produits d'hygiène féminine sont détaxés. Disons que vous pouvez faire en moyenne 2 à 3 mois avec une boîte, selon votre flux. Calculez le tout sur près de 40 ans. C'est sans compter les tampons ou autres pilules pour soulager la douleur, lorsque nécessaire. C'est coûteux d'être une femme. Et ne me parlez pas de ces serviettes lavables. Vous utilisez la DivaCup? Bravo! Si mal utilisée, elle peut engendrer un syndrome du choc toxique, au même titre que les tampons. Et puisqu'il est déconseillé de la porter la nuit, il faut donc trouver une alternative. Perso, je n'adopte pas la DivaCup, comme les personnes qui font la rivière rouge, car je ne mettrai pas mes mains dans mon vagin pour aller l'installer, puis la retirer. Mes intentions écologistes s'arrêtent là. Je n'ai jamais mis de tampon. Je ne vais pas commencer la DivaCup. Cela dit, cet été, j'ai découvert le bas de bikini padé, Savvy Period Swimwear, et j'ai été agréablement surprise. Et si ça a survécu à ma première fois en surf, dans les vagues de Californie, ça peut survivre à pas mal toutes. Sauf peut-être la mer Rouge. Malgré mon indignation lisible, cette chronique n'a pas été écrite sous l'emprise du SPM ou des menstruations. Mais quand on subit cette condition 12 fois par an, pendant, disons, 40 ans, on commence à connaître la chanson. C'était « Le mot en M », une chronique de Julie Vaillancourt parue le 23 septembre 2024 dans le magazine Fugue.
La rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, poésie. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Ô toi, lecteur, qui s'apprête à sauter ce passage du dossier sur la rentrée littéraire québécoise, croyant à tort ne rien y trouver pour toi. Attends! La poésie est une forme littéraire qui gagne véritablement à être connue. Il existe une myriade de poètes dont l'acuité d'observation, le sens de la formule et les instincts sémantiques en disent plus long sur le monde contemporain et sur la vie elle-même que nombre d'essais. Pour peu qu'un bon ou une bonne libraire vous aide à dégoter le recueil approprié, essayer la poésie, c'est souvent l'adopter. The Beretta Band, chez Poète de Brousse, raconte la rencontre improbable de Jonathan Charette et d'Ariane Caron-Lacoste, deux héritiers de Denis Vanier et de José Yvon, qui, un jour de tempête, décidèrent de fonder un groupe de punk balistique. Le livre qui narre leur péripétie est un cocktail de délits, d'onomatopées, de métaphores fulgurantes et d'humour noir. Ces promoteurs d'une poésie rebelle et incendiaire ont une mission simple, semer le trouble et en accepter les conséquences. 5 ans après Pour commencer, le sang, l'Acadien Luc-Antoine Chiasson, avec La grande maison en bardeau rouge qui grince la nuit, chez Personnage, offre un recueil qui revisite les deuils parsemant nos vies et leur impact sur notre existence. Usant d'une langue au parti pris d'efficacité, le poète aborde le passé, l'enfance et la famille, avec la simplicité de ceux dont la sensibilité n'a d'égal que la sincérité. 6 ans ont passé depuis le succès de « Paquet de troubles ». Et voici que la comédienne Charlotte Aubin publie « Toutes ou pantoutes » chez Del Busseau éditeur, où le deuil amoureux est ausculté par une poésie franche et audacieuse. Décrivant avec une honnêteté brutale, mais non sans finesse, les tourments intérieurs et les nuances de ces moments charnières, la poète soupèse et décrit la fragilité des relations, la résilience face à la douleur et la quête de sens. On retrouvera un Nicolas Giguère fort différent de ce à quoi il nous a habitués dans « Effet de réel » chez Le Cartanier, un recueil où l'auteur de « Freak Out » et « A Moon Age Daydream » se demande si la poésie crée un effet de réel ou si ce n'est pas plutôt elle qui serait effet du réel. Dépourvu de repères et puisant à même ses thèmes fétiches, de la sensualité masculine au rapport à l'autre, en passant par la mort et la corporalité, le poète cherche à circonscrire les liens qui l'unissent et le mettent au monde. Pour son premier recueil de poésie, Notre-Dame de tous les peut-être chez Du Passage, la romancière Dominique Fortier a choisi d'utiliser la forme épistolaire et d'alterner entre prose et vers pour articuler un propos autour du désir, de l'écriture et du pouvoir des livres. Entre Paris et Montréal, surplombée de la majesté et de la mélancolie de Notre-Dame, détruite, mais toujours présente, l'autrice des « Villes de papier » entretient avec délicatesse l'espoir en dépit de l'absence. Près de 20 ans après son premier recueil, « Miniature en pays perdu », qui fut suivi de plusieurs autres, François Turcot revient cette saison avec « Les pas fantômes » chez La Peuplade, un recueil à la beauté navrée, alliant une prédisposition contemplative à un sens inné de l'image étonnante, mais juste. Entre désolation familière et exotisme onirique, les voyages immobiles du poète mènent ainsi au seuil de vertige aussi envahissant que poignant. Timothée William Lapointe apporte une touche d'humour et de rythme à la banalité du quotidien avec « Une vie bien dormie » chez Ta mère, dont les envolées facétieuses recèlent néanmoins une profondeur teintée du jaune des rires de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Inspirée par les rites funéraires familiaux, Laurence Veilleux élabore une mythologie toute personnelle en récupérant la parole des fantômes qu'elle secoue dans « Aller au corps » chez Le Norrois, où, au gré d'images taxidermiques et de souvenirs archaïques, elle toise les ellipses que les morts laissent dans leur sillage et refondent ses filiations en se plaçant sur le signe des sorcières insoumises qui préfèrent la barbarie à la solitude. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature québécoise, poésie. Des propositions de lecture de Philippe Fortin, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.